Je vais prier pour lui. Seigneur, merci pour Roland, pour qui il est. Merci, Seigneur, de le guider dans ce que tu lui as mis à cœur. Et merci, Seigneur, aussi d'ouvrir nos cœurs pour qu'on soit réceptif à sa parole. Merci, Seigneur, de le conduire. Merci, Seigneur, de le bénir. En ton nom, Jésus. Amen.
Bonjour à chacun. Je suis très sensible à la période des fêtes chrétiennes. Et j'aimerais rappeler que nous sommes dans le temps du carême qui va nous conduire à Pâques et on va vivre bientôt la semaine pascale. Je suis sensible aussi à ce qui se passe dans un culte. C'est interactif et j'attire l'attention sur le fait que dans le choix des chants de Laetitia, il y a un chant qui est en pleine communion, je ne sais pas comment dire, en lien fort avec ce que je vais dire ce matin, lorsque nous avons chanté « Ouvre les yeux de mon cœur ».« Ouvre les yeux de mon cœur ». Et ce n'est pas du hasard si notre ami Richard a été interpellé, est intervenu pour dire « Je désire te voir », il l'exprimait comme le soupir du chrétien, « Je désire te voir dans ma vie, te voir ». Et il a rajouté « Pour voir Dieu, je me confie en toi ». C'est à quelque part cet abandon, le fait de s'abandonner dans les mains du Seigneur, qu'on le voit à l'œuvre. Et c'est pas du hasard non plus la prière de Bernard ce matin lorsqu'il a dit il y a nos yeux humains, Seigneur, donne-nous les yeux de la foi, que nos yeux de la foi puissent te voir. C'est le thème de mon message ce matin. Ce deuxième regard qui est si important. Il y a dans la Bible, moi j'aime les histoires. Et j'aime beaucoup lorsque ma femme raconte des histoires. Ce n'est pas une conteuse, mais elle raconte très bien les histoires. Depuis tout jeune, elle sait raconter les histoires à nos enfants. Maintenant, ils sont grands. Et puis maintenant, elle raconte aussi des histoires à nos petits-enfants, qui grandissent aussi à la vitesse grand V. Il y a dans la Bible une histoire très intéressante qui met en scène un prophète bien connu. Un épisode précis. Cet homme de Dieu est à Dothan. Il risque sa vie car des ennemis redoutables veulent lui faire la peau. Est-ce que vous vous rappelez de qui il s'agit ? Plus fort ? Oui, il s'agit d'Élisée. Moi, j'aime bien aussi que dans nos milieux évangéliques, on prêche plus dans l'Ancien Testament, bien sûr, avec une perspective néo-testamentaire, mais ça me paraît important de venir régulièrement aussi, de nous enraciner dans l'Ancien Testament. Pourquoi des ennemis lui en veulent-ils pareillement ? Pourquoi un tel acharnement sur Élisée ? L'ennemi syrien envoie une espèce de commando pour le capturer, pour le tuer. Avant d'aller plus loin, nous allons lire maintenant 2 Rois 6, 8 à 17. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël. Dans un conseil qu'il tint avec ses serviteurs, il dit « Mon camp sera à tel endroit ». Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël « Attention, ne passe pas à cet endroit ». Car c'est là que les Syriens descendent. Le roi d'Israël envoya des hommes se tenir en observation à l'endroit que lui avait seulement une et signaler l'homme de Dieu. Cela ne se produisit pas seulement une ou deux fois, si bien que le roi de Syrie en eut le cœur tout troublé. Il appela ses serviteurs et leur dit « Allez-vous enfin me dire lequel de nous est partisan du roi d'Israël ? » L'un de ses serviteurs répondit : Personne, mon seigneur le roi. C'est Élisée, le prophète qui est en Israël, qui rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Le roi dit : Allez repérer où il est et je le ferai capturer. On vint lui dire : Il est à Dothan. Le roi de Syrie envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui encerclèrent la ville. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin pour sortir de la ville et il vit qu'une troupe la cernait avec des chevaux et des chars. Il dit alors à l'homme de Dieu : Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous ? Il répondit : N'aie pas peur. Et là, vous avez le verset clé qui m'habite, le verset 17 également, les deux versets importants de ma réflexion ce matin. Il répondit : N'aie pas peur, car ceux qui sont avec nous sont plus grands que ceux qui sont avec eux. Puis Élisée pria : Éternel, et que cette prière porte du fruit encore ce matin au milieu de nous, Éternel, ouvre ses yeux, ouvre les yeux de cette assemblée, de l'essai de Cossonay, pour qu'il voie. L'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, et il vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Élisée. Moi, j'aime ce prophète Élisée. Élie aussi beaucoup. Élisée. Il était considéré à cette époque, quand on parlait des prophètes dans la Bible, le langage est un peu surprenant, on disait c'était le voyant de l'Éternel. Ce n'était pas un astrologue. Mais c'était le voyant de l'Éternel. Il avait une perception des choses spirituelles énorme, extrêmement grande. Son intuition, les paroles de révélation qu'il recevait, lui permettaient de savoir à l'avance ce qu'il se passait, et dans notre histoire, dans le camp de l'armée adverse, et aussi des manœuvres militaires de cette armée syrienne. Et avec beaucoup de loyauté, il en informait aussitôt son roi, le roi d'Israël. Il s'approchait pour dire : Ô roi, voilà ce que j'ai reçu, voilà ce que j'aimerais te transmettre aussi pour la protection de notre peuple. Alors le roi de Syrie, l'ennemi d'en face, ne supporte plus. Il n'est pas du tout content de ce qui se passe. Il croit qu'il y a des traîtres dans son armée et il comprendra que c'est pas ça. C'est qu'il y a un prophète qui le dérange énormément puisqu'il sait à l'avance un petit peu ce qui se passe, les manœuvres militaires. Élisée. Et puis il y a aussi dans cette histoire qu'on a lue, Géasi, son fidèle serviteur. Pour moi, j'espère ce matin que l'on va se reconnaître dans Géasi. Que l'on soit homme ou femme, jeune ou vieux, que l'on ait 20 ans ou 50 ans de conversion, je crois qu'il y a du Géasi régulièrement dans nos vies et dans nos expériences de vie. Géasi, ce fidèle serviteur d'Élisée qui est à côté de son maître, lui, dans cette situation qu'on a lue, il est épouvanté par la situation et reconnaissons-le, il n'exagère pas, il y a de quoi avoir très peur. Imaginez un commando qui arrive dans votre direction pour vous faire la peau. J'aimerais montrer trois choses ce matin dans ce message. J'aimerais montrer le regard humain, j'aimerais montrer l'attitude du prophète Élisée, et j'aimerais parler du deuxième regard. Le regard humain, c'est ce que j'appelle moi ce matin le premier regard, c'est-à-dire ce que je vois devant moi. J'ai réalisé que mon dernier contrôle médical ophtalmologue remonte à 2015. C'est pas bien. J'ai trop attendu. Alors ça va, j'ai reçu mon rendez-vous, je dois retourner. Mais voilà, il ne faut pas trop tarder, il faut contrôler régulièrement. Mais qu'est-ce qu'on est content quand on fait le contrôle ? Puis il m'a dit, vous savez, oui, vous avez de la myopie, mais ça, c'est stationnaire. C'est rassurant quand on fait un contrôle comme celui-ci. Et je peux toujours lire encore avec des petits caractères, vraiment de l'écriture minuscule. Ça fait plaisir, c'est rassurant. Ce premier regard, ce que je vois devant moi, dans le texte, Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin pour sortir de la ville. On parle de Gehazi. Il vit qu'une troupe la cernait avec des chevaux et des chars. Il dit alors à l'homme de Dieu, après ce qu'il voit, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous ?» Et ça démarre sa part de ce qu'il voit. Gehazi, qu'est-ce qu'il voit ? Eh bien, il voit dans son champ visuel de redoutables guerriers qui viennent dans la direction de Dothan. Et il n'est pas en train, soulignons-le, ça me paraît important, il n'est pas en train d'inventer une histoire, de grossir un problème. Ce qu'il voit, ce qu'il commente, correspond bien à la réalité. Je sais que parfois on peut exagérer, on peut voir peut-être des choses qui, on n'est pas dans la réalité, mais ce n'est pas ce que dit le texte ici. Il pose même la bonne question à son maître. Il est légitimement pris de panique. Alors il questionne Élisée. Et certainement que c'était une habitude de Gehazi de questionner le prophète. Et il se dit, mais il dit, remontable ce que je viens de voir. Le regard humain, le regard de Gehazi, le regard humain, le tien, le mien, le nôtre. Deuxième chose, il y a l'attitude du prophète. Et il répondit, Élisée, n'aie pas peur, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Voyez-vous, moi j'aime beaucoup cette approche psychologique d'Élisée. J'aime beaucoup sa manière de réagir, de répondre à Gehazi. Il respecte son serviteur. Il ne lui fait pas une leçon spirituelle en trois points. Il ne lui répond pas avec de l'artillerie lourde, du genre « Gehazi, mais tu manques de foi, mais tu es incrédule dans cette affaire. Rappelle-toi, on vient de vivre la guérison de Naaman le prophète. Je lui avais dit de se plonger cette fois dans le Jourdain. Tu as vu ce miracle. Tu ne vas quand même pas maintenant être un incrédule de première. » Ce n'est pas ce que fait Élisée. Il aurait pu dire, mais tu inventes le problème, tu fabules. Ce n'est pas ce qu'il fait. Élisée sait en tout premier le rejoindre. Il sait parler à son cœur. Il sait rassurer son serviteur. Et plus, et on nous l'apprend en relation d'aide, il sait valider ce qu'il voit avec ses yeux humains. Il valide ce que son serviteur Gehazi voit avec ses yeux humains. Et je fais un jeu de mots, on peut y voir même une certaine tendresse, un attachement véritable entre ces deux personnes habituées à faire route commune. Quand quelqu'un souffre, mes amis, en face de nous, ce qui nous est surtout demandé à ce moment-là, ce n'est pas d'expliquer ou de venir avec nos théories, c'est de l'accueillir comme il est et sans chercher à le formater selon nos critères, même très spirituels. L'attitude du prophète. Troisième chose, le regard d'espérance. Il y a le premier regard que Gehazi a reçu, que nous avons, et vous verrez que je ne vais pas le mépriser, ce regard humain du tout. Combien de fois j'ai entendu dans nos milieux chrétiens, oui, mais ça c'est un regard, tu vois charnellement, c'est un regard humain, c'est un regard parce qu'on est encore pécheur. Moi je ne vous dis pas ça ce matin, je vous dis que ton regard, heureusement qu'on peut regarder, heureusement qu'on peut voir, heureusement que nous avons un regard humain et il faut le valoriser. Je parle maintenant du deuxième regard, c'est-à-dire ce que je vois en levant les yeux vers le Seigneur. Je vous ai parlé, il va valider, il va dire n'ayez pas peur, car ceux qui sont avec nous sont plus grands que ceux qui sont contre nous. Il prophétise en même temps, mais sans le sermonner, et maintenant il adresse une prière. Et je vous dis que cette prière, j'aimerais l'accueillir pour notre communauté ce matin. Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Le prophète demandera à travers une prière circonstancielle que son serviteur reçoive maintenant les yeux de la foi, ce deuxième regard pour percevoir un monde spirituel bienveillant, ayant pour mission de les protéger, lui et son serviteur, de les sauver tous les deux, disons-le, de cette embuscade. Certainement que le prophète, juste avant, a eu le réflexe, après avoir regardé lui-même d'abord la situation, de regarder à Dieu. Élisée avait certainement l'habitude dans sa vie d'homme de Dieu, de prophète, de ne pas naviguer seulement à l'œil nu, en comptant essentiellement sur le regard humain. Il savait fort bien, Élisée, en homme averti, en homme de Dieu, que le regard humain, quoique nécessaire, quoique précieux, j'ai même envie de dire indispensable pour une vie normale d'un être humain, vraiment est là pour nous aider à voir clair, et c'est le cas de le dire, mais peut aussi notre regard humain souvent nous influencer, pas toujours de la bonne manière, en voyant souvent le verre à moitié vide et perdre par conséquent toute objectivité, tout discernement. Le texte précise que la prière d'Élisée va être exaucée. Éternel, l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur. Il vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Le miracle s'est produit. Le déclic est arrivé. C'est-à-dire que Géasi voit toujours le problème en face. Le commando militaire syrien n'a pas disparu. Ils arrivent toujours. Celui-ci arrive toujours dans sa direction. Ces gens, ces militaires expérimentés veulent toujours sa peau et la peau du prophète. Mais subitement, miraculeusement, il voit aussi avec ce deuxième regard. Il voit avec un regard d'espérance l'intervention de Dieu. La leçon à tirer dans cette histoire, cela nous arrive bien souvent de voir les événements en considérant uniquement ceci avec nos yeux humains. Et je ne dis pas nos yeux charnels, ce serait péjoratif, négatif. Alors que le Seigneur aimerait nous accorder ce second regard. Non pas, mes amis, retenez bien cela, pour annuler le premier regard. Moi, j'ai souvent entendu une espèce de théologie évangélique qui dit que le regard de foi annule le regard humain. Ce n'est pas ce que je dis ce matin. Je dis que le regard de l'espérance complète, enrichit, apporte de l'espérance à notre regard d'homme et de femme pour affronter le problème dont il est question avec confiance, courage et dans l'espérance. Frères et sœurs, demandons à Dieu ce deuxième regard. Il y a ce que notre vue nous permet de voir comme étant un beau panorama. Je me rappelle ces temps-ci, le début du printemps avec ces petites fleurs qui poussaient si bien, avec ce soleil si agréable. Je pense à ces tableaux de Stéphanie la semaine passée dans cette louange particulière et les tableaux de Quentin ce matin qui nous édifient. Je pense au groupe Gospel Hosanna, ils étaient 30 ici à faire une répétition générale et j'ai guigné un peu l'autre jour, hier plutôt. Parce qu'il faut quand même le dire que pendant plusieurs semaines, on lui répétait, puis des fois, pendant 15 fois, il disait la même phrase. Alors quand on fait du bureau, puis qu'on est attentif, puis qu'on se concentre, ce n'était pas toujours évident, mais je l'ai vécu avec joie, ce n'est pas ça le problème. Mais hier, comme c'était la répétition générale, ou presque, je sais qu'ils ont encore une dernière répétition, j'avais le concert avant l'heure, voyez. Et c'était bon, et c'était beau à voir et à entendre. Et on voyait ces choristes, ils étaient, vous étiez contagieux de l'amour de Dieu. Et c'était vraiment Hosanna, comme dit le flyer. Il y a aussi ce que notre vue est malheureusement habituée à voir et qui nous éprouve, nous décourage, parfois même nous angoisse. La guerre en Ukraine. On ne devrait pas trop regarder ces images, mais si on regarde le téléjournal, je crois qu'en tant qu'enfant de Dieu, on devrait transformer en prière ce que nous voyons. Si on est comme les autres à regarder tout le temps le téléjournal dans tous les détails, puis même quatre fois dans la journée, puis qu'on ne prie pas, je pense qu'on a mieux à faire. Je vois encore cette femme, le samedi 19 mars, Alors que j'étais pour, depuis 2008, j'y vais, je crois, alors que j'étais dans la petite chapelle protestante de Verbier en train de répéter à ma guitare et où la dextérité revenait, puis je répétais des chants pour la louange du lendemain, ça faisait longtemps que je n'avais pas joué de la guitare, mais c'est revenu et je m'en réjouis, et tout d'un coup débarque dans la chapelle une dame qui est venue comme ça spontanément. C'était une Parisienne, Isée, la cinquantaine. Elle m'a dit, j'ai entendu, parce que je suis dans la même rue, et puis j'ai entendu de la louange, de la musique dans cette chapelle, je peux entrer. Et on a eu un très beau partage. Parce que quand on est pasteur de montagne, on se relaie, je dois répondre aussi à des urgences, pas seulement officier le dimanche. Alors j'ai répondu à l'urgence, entre guillemets. Et on a eu un très bon partage. Et cette femme était, mes amis, très, très angoissée par la situation, ce qui se passe en Ukraine. Elle était convaincue que c'était le début peut-être d'une troisième guerre mondiale. En tout cas, c'était son ressenti, c'était ce qu'elle voyait pour elle. Mes amis, elle avait beau avoir, parce que je l'ai su le lendemain, parce qu'elle est venue au cul le lendemain, elle avait beau avoir un doctorat en sciences économiques, avoir réussi sa carrière, elle a eu un très très bon contact avec ma femme, il n'en demeure pas moins que tous ses avantages, tous ses papiers, toute son expérience, c'est pas cela qui lui donnait la paix des profondeurs. Elle avait tellement besoin du Seigneur. Elle me l'a dit à la fin du culte, déjà dans la répétition, elle m'a dit, oh, pasteur, vous ne pouvez pas jouer de chant. Alors j'ai fait un mini-concert pour elle, quoi. Enfin, pour moi, c'était de la répétition. Pour chacun de nous ici présents, il y a des choses que nous voyons avec nos yeux humains qui correspondent à la réalité, et vous n'exagérez pas, et qui nous pèsent parfois énormément. Et notre gentil regard évangélique que l'on exprime le dimanche matin en arrivant cache souvent ce qui se passe au-dedans de nous. Alors que faire? Ne pas en rester à notre regard uniquement humain. Lisons le psaume 121. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. C'est un de mes psaumes préférés que j'aime chanter aussi à la guitare. C'est très beau parce que dit le psalmiste dans ce chant des montées, dans ce cantique des degrés? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je lève les yeux, et quand je lève les yeux, je vois le ciel de gloire. Et une fois qu'il a vu le ciel de gloire, juste après, le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Je vois le ciel de gloire, et je vois aussi ce qui se passe sur terre. Mais mon champ optique change parce que l'espérance me saisit. Cultivons le réflexe de ne pas seulement regarder devant nous, mais aussi de lever les yeux vers les montagnes d'où nous vient le secours. Je l'ai dit, dans 2 Rois 6, le second regard n'annule pas du tout le premier, mais le complète si bien, et surtout va nourrir notre foi et notre espérance. Jésus, dans son ministère, exerçait sans cesse la conjugaison de ces deux regards. Il voyait comme tout être humain le problème, le défi, la complexité de telle situation. Mais en même temps, nous le savons, il avait les yeux rivés sur son Papa céleste qui lui parlait et lui montrait le chemin. Et j'en ai pour preuve ce que dit Jean 5, 19. Le Fils ne peut rien faire par lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire du Père. Il avait les yeux rivés sur le Père. Il avait une bonne vue humaine, Jésus, dans son humanité, mais il avait une excellente vue spirituelle. Dans cette période du temps de carême, je vous prends encore 5 minutes, rappelons-nous 2 épisodes correspondant à cette période d'avant Pâques dans la vie de Jésus. Il me semblait bien de faire le lien avec le temps du carême et ce qui s'est passé aussi les jours qui précèdent Pâques dans la vie de Jésus. Et nous allons voir à travers 2 textes commenter succinctement à quel point ces 2 regards que nous étudions ce matin étaient constamment présents dans la vie de Jésus, qui était aussi le voyant de l'Éternel, qui était aussi le prophète de Dieu, l'envoyé. L'Élie de la Nouvelle Alliance, le prophète par excellence de la Nouvelle Alliance. Il avait tellement besoin de regarder à son Père. Il ne pouvait pas s'en passer, Jésus. On pourrait bien sûr citer de nombreux épisodes dans sa vie, mais je cite deux. Jean 12, 1 à 11, je vais surtout lire. On se met un petit peu dans l'ambiance du carême, vous êtes d'accord? Et on apprécie, on salue ce que Jésus vivait. Jésus arriva à Béthanie, où était Lazare qu'il avait ressuscité. Là, on lui offrit un repas. Marthe servait et Lazare était parmi ceux qui se trouvaient à table. Marie prit un demi-litre d'un parfum de nard pur, très cher, en versa les pieds de Jésus et lui essuya les pieds avec ses cheveux. La maison fut remplie de l'odeur du parfum. On est quelques jours avant Pâques. Un de ses disciples, Judas l'Iscariote, fils de Simon, celui qui allait le trahir, dit « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 pièces d'argent pour les donner aux pauvres ?» Il disait cela non pas parce qu'il se souciait des pauvres, mais parce qu'il s'était un voleur et, comme il tenait la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Jésus dit alors « Laisse-la. Elle a gardé ce parfum pour le jour de mon ensevelissement. En effet, vous avez toujours les pauvres avec vous, tandis que moi, vous ne m'aurez pas toujours. » Une foule de Juifs apprirent que Jésus était à Béthanie. Ils y vinrent non seulement à cause de lui, mais aussi pour voir Lazare qu'il avait ressuscité. Les chefs des prêtres décidèrent de faire mourir aussi Lazare, parce que beaucoup de Juifs les quittaient et croyaient en Jésus à cause de lui. Vous voyez, dans cet épisode, que je pourrais bien sûr développer, mais j'ai choisi deux rois six ce matin, il y a le premier regard de Jésus et il y a son second regard. Dans son premier regard, il revoit ses amis. Lazare, Marthe, Marie. Jésus voit le service de Marthe. Jésus voit avec ses yeux humains son pote, excusez-moi l'expression comme ça. Lazare, c'était vraiment un ami, c'était un pote pour lui. Il voit son ami intime, Lazare. Il le voit à nouveau vivant. Jésus voit cet acte dévotionnel de Marie qui répand du parfum de grand prix sur ses pieds. Jésus voit aussi l'hypocrisie de Judas. Jésus voit les pauvres. Jésus voit cette foule qui a appris qu'il est par là et cette foule aimerait le rencontrer. Et Jésus voit les manigances des chefs religieux qui veulent non seulement le mettre à mort, mais le texte précise, mettre aussi à mort Lazare, parce que le ressuscité Lazare, c'était une espèce de répétition générale avant la croix, dérange énormément les religieux. Ça, c'est le premier regard de Jésus. Mais son deuxième regard, présenté dans le texte, Jésus voit clairement aussi la suite. Il voit poindre à l'horizon la croix. Il sait qu'il va mourir, mais il sait aussi qu'il va ressusciter lorsqu'il dira « Elle a gardé ce parfum pour le jour de mon ensevelissement. » Et deuxième texte, dans ce temps de carême qui me semble juste, montre aussi ce principe spirituel tellement développé chez Jésus. Matthieu 20, depuis le verset 17. Pendant qu'ils montaient à Jérusalem, Jésus a pris à part les 12 disciples et leur dit en chemin, « Nous montons à Jérusalem et le Fils de l'homme sera livré aux chefs des prêtres et aux spécialistes de la loi. Ils le condamneront, ils le livreront aux non-juifs pour qu'ils se moquent de lui, le fouettent et le crucifient le troisième jour, il ressuscitera. » Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. Il lui dit, « Que veux-tu ?» « Ordonne, lui dit-elle, que dans ton royaume, mes deux fils que voici soient assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. » Pas mal comme demande. Hein? Jésus répondit, « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ou être baptisé du baptême dont je vais être baptisé ? Nous le pouvons, dirent-ils. » Parfois, quand on fait des grandes déclarations, il leur répondit, « Vous boirez en effet ma coupe et vous serez à la fin de la vie baptisé du baptême dont je vais être baptisé. » Ça ne va pas être simple, la fin de la vie de plusieurs disciples. « Mais quant à être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux pour qui mon Père l'a préparé. » Dans ce premier regard de Jésus ici, Jésus voit, pendant qu'il montait à Jérusalem, c'était une habitude, il aimait se rendre à Jérusalem, Jésus voit sa dernière montée, dans la ville sainte, la ville du roi David.
comme un parcours de vie. Il fait cette montée aussi en tant que pèlerin juif pour la Pessah. Cette montée est saisissante pour Jésus et les souvenirs sont nombreux. Il doit s'en rappeler et il voit sa vie et il voit les 33 ans de son parcours de vie. Et puis avec son deuxième regard, il voit ce qui l'attend et prophétise déjà la victoire. Ils le condamneront, ils le livreront non-juif, mais le troisième jour, il ressuscitera. J'aimerais, après tout ce que nous avons dit ce matin, prier maintenant, car j'espère que vous êtes d'accord que nous nous reconnaissons tous à travers le serviteur Kiazi. Ne sommes-nous pas des serviteurs du Seigneur, des servantes, non pas des alter ego, mais des petits. Un chrétien, c'est un petit Christ, c'est un minus. Et Christ, c'est le grand Seigneur de nos vies. Nous reconnaissons à travers Gehazi. Oui, demandons ce deuxième regard qui vient si bien compléter le nôtre. Nous prions. Seigneur, oui, je l'avais vraiment dans mon cœur ce message. Et je prie, Seigneur, pour ce que nous avons partagé ensemble ce matin. Nous te remercions déjà pour qui nous sommes, l'être humain que nous sommes, le potentiel qui est le nôtre, notre capacité humaine, le goût, l'odorat, ce que nous voyons, le champ visuel. Merci pour c'est tellement précieux d'avoir une bonne vue, on est tellement reconnaissant. Merci pour tout ce que ma vue humaine me permet de voir quand on contemple ta création, quand on est sur les pentes enneigées, quand on est au bord du lac ou devant l'océan. Merci pour tout ce que nos yeux peuvent contempler, humainement parlant. Mais merci aussi pour ce deuxième regard. Et Seigneur, toi, tu sais, avec notre vue humaine ce matin, tout ce qui nous trouble, tout ce qui nous charge. Peut-être il y a aussi ce qu'on voit sur nous-mêmes. Je parlais avec quelqu'un cette semaine, et cette personne me disait, mais dans ce que je vois, j'apprécie pas du tout, j'ai de la peine à m'aimer. C'est un regard sur soi-même. Toi, tu sais ce qui se passe par rapport à ce que nous voyons de nous-mêmes, là où nous sommes peut-être déçus de nous. Il y a ce que nous voyons des autres. Il y a ce que nous voyons dans le monde, dans les infos du monde. Seigneur, hosanna, au secours, viens au secours de notre anxiété, tellement limitée et qui peut vite sombrer dans l'anxiété. Accorde-nous ce matin ce regard d'espérance dans le précieux nom de Jésus-Christ. Et tu le fais. Comme tu l'as fait pour Gehazi, qui subitement, miraculeusement, providentiellement, il a vu tout d'un coup cette armée céleste. Seigneur, que nous puissions voir ce monde spirituel, que nous puissions voir à quel point tu es Jésus, le bon berger, et tu as promis que tu serais tous les jours avec nous. Amen. Je serai à la sortie pour vous dire bonjour, et puis j'ai le petit résumé à votre disposition, j'en ai suffisamment.